Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Sparkhir, c'est Slimane. Et merci beaucoup pour votre accueil. Et je suis vraiment très content de vous rencontrer parce que moi, je vous connaissais avant, je vous lisais. Je crois même qu'on s'était rencontrés une fois que je vous le disais. Je ne suis pas censé vous présenter, mais je dirais agroéconomiste. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous pouvez rajouter des choses? Vous êtes qui, au fait?
En fait, de formation, je suis économiste. J'ai fait une licence d'économie, j'ai fait un doctorat en économie et j'ai préparé le concours d'agrégation en économie. Mais j'ai travaillé sur l'agriculture très très tôt, puisque j'ai terminé ma licence de sciences économiques à Dijon en 1965. Et je suis rentré en Algérie comme assistant à l'Institut de sciences économiques à l'époque, en fin 1965. Et tout de suite, j'ai commencé à travailler sur les problèmes agricoles. D'abord au plan. À l'époque, c'était le secrétariat d'État au plan. Où j'ai commencé à être une sorte de consultant à mi-temps, une sorte de consultant sur les problèmes de planification agricole à l'époque.
Donc, à partir de quand vous êtes rentré au ministère?
1967.
Oui.
1967. J'ai commencé donc à travailler au secrétariat d'État au plan, tout en étant assistant à l'université, hein. Sur les problèmes de planification agricole. En 1968-69, j'ai fait une année de stage à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, qui venait en fait de se créer trois ou quatre ans auparavant. L'IAM étant une institution internationale de laquelle l'Algérie faisait partie. Et à mon retour de Montpellier, donc en 70, j'ai continué à travailler sur les problèmes agricoles.
À l'université.
À l'université et au plan aussi, d'ailleurs. J'ai continué à être consultant au plan sur les problèmes de planification agricole.
Votre thèse a porté sur quoi?
Ma thèse a porté sur, à l'époque, j'ai commencé ma thèse assez tard, hein. J'ai commencé ma thèse en 77, je crois.
D'accord.
1977.
Vous aviez quel âge?
À 77, moins 41, ça fait combien?
Vous aviez 41 ans à l'époque?
Non, moins.
Non.
Moins. Moins. 20. Oui, c'est ça. 30. 36, 37 ans, me
semble. D'accord.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et donc, elle a porté sur l'histoire de l'agriculture algérienne de 1966 jusqu'à la fin des années 70.
Donc, 10 ans ou 15 ans, une sorte de bilan.
Ça. Voilà, une sorte de bilan de l'agriculture. Thèse qui a été publiée à l'époque chez Economica à Paris.
Oui. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'origine rurale, agricole? Est-ce que vous aviez des relations avec l'agriculture au moment où vous étiez enfant?
Ah oui. Moi, je suis né dans l'Algérie profonde. Je suis fils de nomades, plutôt de petits nomades. Était berger. Bon, vous connaissez la société maghrébine.
Oui.
Donc, la tribu.
L'arche.
Notre tribu s'appelait la tribu, s'appelle toujours d'ailleurs, la tribu des Ouled Sidi Nasser. Ouled Sidi Nasser.
Et c'est où localisé?
C'est entre leur localisation, c'est entre Aflou et El Bayev.
Ok.
Et c'est un. Vous savez qu'à l'époque de la colonisation, au moment du Senatus Consulte, toutes les tribus algériennes ont été délimitées dans un territoire géographique donné.
D'accord.
Et donc la tribu des Oulad Sidi Nasser, elle a été localisée donc à la frontière entre l'actuelle wilaya de l'Bayan et l'actuelle wilaya de la Gouate.
D'accord.
Et donc je suis né sous la tente d'après ma mère, c'était en hiver. Et ça a été très très dur. Ça a été très très dur. Et donc mon père était berger. Et vous savez, dans la société tribale, tout du moins chez nous, dans les sociétés maghrébines, le berger était le plus mal considéré sur le plan social dans la tribu. Oui. D'ailleurs, le terme berger, ra'i, est une insulte dans beaucoup de tribus. Donc mon père était berger chez donc un propriétaire de troupeaux. Mon frère aîné était aussi berger. Et ce frère aîné, un jour, s'est disputé avec son propriétaire de troupeaux, qui l'a battu. Et mon frère, pour se venger, a prélevé, pour ne pas dire d'autre mot, une dizaine de brebis sur le troupeau qu'il gardait. Il allait le vendre au marché d'Aflou. Aflou, à l'époque, c'était une commune mixte. Avec le produit de la vente, il en a gardé une partie, il en a envoyé une partie à mon père. Mon père, qui a reçu d'ailleurs des volets de bois vertes de la part du propriétaire du troupeau, parce qu'il était responsable de son fils. Et mon fils, pour le. Mon frère, comme il ne pouvait pas retourner dans la tribu, il est allé s'engager dans l'armée française, à la caserne d'Aflou.
D'accord.
Qui le mettait automatiquement à l'abri de toute poursuite pour le vol qu'il avait commis. Et voilà comment mon frère, Atala, est rentré dans l'armée française. Il s'engage donc dans l'armée française. Et les premiers endroits où il est allé, c'est dans le sud algérois, du côté de Béchar. Arrive la guerre de 39-45, il est fait prisonnier. Il fait la guerre. Il est fait prisonnier par les Allemands. Et les Allemands le mettent dans un camp de prisonniers en France. Parce que les Allemands, les prisonniers maghrébins à l'époque, ils ne les envoyaient pas en Allemagne. Ils les gardaient en France dans des camps et ils les louaient à des agriculteurs français pour faire les travaux des champs. Mon frère, Atala, a donc travaillé pendant la journée chez un petit seigneur du côté de Troyes, dans l'Aube, qui avait un jardinier qui s'appelait Semence, non prédestiné. Mon frère a travaillé donc avec Semence à faire du jardinage. Et il s'évade une première fois du camp. Il est rattrapé et, heureusement pour lui, il n'a pas été fusillé. Il s'évade une deuxième fois, donc de Troyes, au sud de Paris. il est analphabète, il ne sait ni lire ni écrire, ni le français ni l'arabe. Il traverse toute la France, il arrive à Port-Vendres. Port-Vendres, c'est un port, un petit port, un port qui est grand maintenant, juste à la frontière espagnole. Mmh. Et là, il s'embarque clandestinement sur un bateau à destination d'Oran. Et c'est comme ça que je connais ma date de naissance. Pourquoi ? Parce que quand il débarque dans la tribu après s'être évadé, il prétend que j'avais un an. Et donc il est arrivé en 1942, et c'est comme ça que je sais que je suis né en 1941, sans connaître la date exacte de ma date de naissance.
C'est superbe comme histoire. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors, quand il est rentré...
Il a été réadmis dans la tribu ?
Ah, bien sûr.
Ouais. Parce que c'était quand même dans la tribu à l'époque, si je fais des comparaisons avec la mienne, par exemple, s'engager dans l'armée française, il y en avait beaucoup qui l'avaient fait, mais c'est déshonorant, c'est quelque chose que...
Non, pas du tout chez nous.
Non ?
Pas du tout. Bien au contraire, parce que c'est grâce à la solde qu'il envoyait à mon père que la famille n'est pas morte de faim. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a subi quand même la famine dans les années 40. Hein. Et donc, pour continuer mon histoire, je suis donc d'un milieu vraiment rural. Hein. Et Atala s'est engagé immédiatement dans l'armée de Gaulle, qui reconstituait l'armée d'Afrique. Et il fait le débarquement. Il fait le débarquement de Toulon.
Oui.
Et il refait la remontée du Rhône et du Rhin avec l'armée française. Il est blessé, pas gravement. Et à la fin de la guerre, il retourne voir la famille Semence.
Oui, avec qui il avait travaillé.
Oui. La famille Semence, le père, la mère, deux filles et un garçon. Et je suppose que Atala s'entendait très bien avec l'une des filles. Mmh. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Ils se marièrent. Alors, en 1946, Atala revient. Chaque année, il venait en permission dans la tribu.
Avec sa compagne et...
Non.
Non.
Tout seul. C'était même avant qu'il se marie, il revenait... Dès la fin de la guerre, il revenait chaque année en permission parce que il remettait un peu d'argent à mon père et tout ça. Et Atala n'était pas bête. Il s'est aperçu en fait qu'il pouvait pas monter de grade dans l'armée française parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et en 1946. Et il débarque donc chez mon père et il lui dit, écoute, les plus jeunes des garçons, il faut que tu les emmènes à Aflou parce que la région de notre tribu, là où mon père nomadisait, se trouve à environ 60 km d'Aflou, de l'agglomération, d'Aflou. Il faut que tu mettes les trois plus jeunes garçons, là, qui sont en âge d'aller à l'école, il faut que tu les mettes à l'école. Mon père lui dit, impossible, moi, mettre mes garçons à l'école française, toute la tribu va se moquer de moi. Non, pas question. Et mon frère lui dit, écoute, ou tu fais ça, ou je te coupe les vivres, je t'envoie plus d'argent. Ma mère, qui était une forte femme, dit à mon frère, t'occupe pas, si ton père ne veut pas aller à Flou, moi je vais y aller. Et comme ça, pour monter sa tente, ben, il trouvera une autre femme. Pourquoi ? Parce que dans notre société nomade, le travail de monter et de démonter la tente, c'est un travail de femme.
De femme, oui, bien sûr.
Un homme qui n'a pas de femme pour monter sa tente,
il dort dehors.
Il dort dehors, oui. Ou il trouve une autre femme. Et donc, mon père, contraint et forcé, accepte. Le Atala, de retour de permission, s'arrête donc à Flou, achète un morceau de terrain, quelques mètres carrés, dans ce qu'on appelait à l'époque le village nègre. Pourquoi le village nègre, à votre avis ?
Habité par un groupe de Noirs.
On l'appelait le village nègre parce que l'esclavage a existé en Algérie, tout du moins dans ma région, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, la France, l'occupant, a obligé les quelques notables qui avaient des esclaves noirs à libérer leurs esclaves. Ouais. Et ces esclaves se sont regroupés. À Flou est une agglomération qui est coupée en deux par un oued.
Oui.
D'un côté, il y a l'administration française, de Borges, hein, qui est un petit fortin construit par les Français, plus les habitations des quelques... On n'avait pas de colons à l'époque, parce que la région n'était pas une région qui devait être colonisée. Parce que ce n'est pas une région d'agriculture comme la région de Tiarette ou le nord de l'Algérie. Et donc, de l'autre côté de l'Oued, se sont établis les quelques Noirs qui ont été affranchis et qu'on a appelés le village nègre. Et donc, mon frère a acheté un morceau de terrain là et dit à mon père, voilà, je te donne un peu d'argent, tu vas construire une baraque en torchis, comme on le faisait à l'époque, et tu vas mettre les enfants à l'école. Mon père, donc, construit sa petite baraque en torchis. Mais il ne veut pas rester à Flou. Donc il prend un autre de mes frères, le plus grand, il le marie, et il le laisse dans la maison en torchis, et lui retourne avec toute la smala dans sa région d'origine, à continuer à faire le semi-nomade. Et donc c'est comme ça que je suis allé à l'école, probablement en 46-47.
C'était l'école française, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et ça a été une... J'ai encore des souvenirs très précis de cette époque-là, vraiment très, 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 très dur. Alors, nous étions... J'étais le plus jeune des trois garçons. Il y avait plusieurs autres garçons qui étaient plus grands, donc qui sont restés avec mon père et ma mère, qui nous a disait. J'étais le dernier des garçons, on était trois garçons qui sont rentrés à l'école. À l'époque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une maison au torchis. Hein, okay. Ouais. Et la couverture, le toit, des branchages avec du torchis.
Ouais.
Hein, et quand il pleuvait, et un flou, c'était un climat très très dur. Hein, c'est à 1400 mètres d'altitude, le point le plus élevé, c'est à 1700 mètres. Il neige à un flou, souvent en hiver. Et donc, la nuit, quand il pleuvait, il y avait des gouttes qui tombaient parce que ce n'était pas suffisamment imperméable. Et le seul habit que j'avais à l'époque, c'était une petite gandoura qui était taillée dans un burnous de spahi que mon frère avait laissé à ma mère. C'est tout ce que j'avais sur le dos. Et j'allais à l'école pieds nus avec mes deux autres frères, en plein hiver. Quand on arrivait à l'école, on était complètement gelé. Et je me souviens de cette dame que Dieu et son âme. C'était une Française, bien sûr. C'était la femme du directeur de l'école. Quand elle nous voyait arriver le matin, grelottant de froid, elle nous emmenait chez elle, au premier étage, et elle nous servait de gros bols de tisane chaude. C'était vraiment, c'est dans ma tête, de façon
du matin.
Fantastique. Et cette dame nous a pris de pitié. Un jour, elle nous a donné une paire de souliers à elle et elle nous a envoyé chez une Espagnole qui avait deux garçons de notre âge. Elle a échangé cette paire de souliers contre deux paires de godasses des enfants de cette Espagnole. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première paire de chaussures.
À quel âge ?
J'avais...
7 ans.
7 ans, oui. 7 ans. 7 ans, 8 ans.
Oui. Comment vous viviez dans ce village, dans cette maison torchie en termes de nourriture quotidienne? Comment le grand frère travaillait? Comment vous faisiez?
Bon, le grand frère était un manœuvre. Donc quand il trouvait un travail, par exemple de manœuvre, de maçon, pour aider un maçon, pour souvent il vendait aussi de la friperie.
Oui.
Enfin, c'était de la débrouille, quoi, de la débrouille. Et on vivait en fait très 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 tard. On vivait très 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 chichement, quoi. Je veux dire, moi je me souviens de qu'est-ce qu'on mangeait. C'était de la galette d'orge. Et quand les jours de grand faste, on avait dans une tasse à café, on avait quelques gouttes d'huile. Pour tremper notre galette, notre morceau de galette d'orge, pas une galette d'orge, notre morceau de galette d'orge.
Ça, c'était la nourriture principale.
C'était la nourriture principale. Il n'y avait même pas de cantine à l'époque, à l'école, par exemple. Mmh. Et on était vêtus de haillons, comme je vous disais. Alors, en 1947, 48, 49, je ne me souviens plus très bien, le frangin Atala, qui est toujours dans l'armée française, dans un régiment de Spahis, se marie donc avec
la jeune
Denise. Et un jour, il revient en permission. J'avais fait primaire, comment on appelait la première année de primaire?
La maternelle.
L'école préparatoire, la classe préparatoire.
Ouais. La maternelle. Cours
élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année.
Ouais.
Et à la fin du cours élémentaire deuxième année, Atala débarque à un flou. Et c'est là où ça a été le grand tournant de ma vie personnelle. Il décide de m'emmener avec lui, moi le plus jeune,
ouais,
en France.
Wow.
À l'époque, son régiment était stationné à Senlis. Senlis, c'est dans l'Oise, au nord de Paris. Et c'est comme ça que je débarque en France, en 1900, probablement 49, 48, 49. Et je fais donc le cours. Je m'inscris à l'école, cours élémentaire de première année, deuxième année, cours moyen, et je passe même une sixième. Je passe une sixième et je fais une année de sixième. Mais ce Atala était un militaire de type classique, disons.
Oui.
Très, très, très dur, très, très sévère.
Oui.
Qui avait comme principal moyen d'éducation les coups.
On a connu ça de notre génération.
Et alors, comme il me battait souvent, Je faisais souvent des fugues. Et au bout d'un certain temps, il en avait marre de mes fugues. Il me dit... En fait, son ambition, c'était quoi en m'emmenant en France? D'une part, il voulait que quand il partait, lui, en mission, en tant que spahi, il voulait qu'il y ait quelqu'un, son frère derrière lui, qui garde la maison, qui
Oui.
Le bled, hein. Et c'est le mal.
Oui, oui, oui.
Avec sa jeune femme, c'était pas possible qu'il la laisse toute seule. Et donc, d'une part, mais d'autre part, il voulait surtout faire de moi ce qu'il n'a jamais pu devenir, c'est-à-dire un officier de l'armée française. Et donc, il a essayé de m'inscrire dans une école militaire à Saint-Mexant. Heureusement pour moi, l'école a refusé de m'inscrire parce que mon père n'avait pas fait de service militaire.
D'accord. Il prenait que les enfants de ceux qui avaient fait le service militaire.
Voilà. Et donc, bon, ben voilà, je ne suis pas devenu militaire. Et donc, en 1954, 1953 plutôt, 1952 ou 1953, il me ramène à Flou en me disant « Va garder les chèvres ».
Ah.
Arrivé à Flou, donc mon autre frère, celui qui nous gardait dans la cabane, là, il était toujours là, avec mes deux autres frères qui avaient continué l'école. Et on arrive, donc j'arrive là, je rentre à l'école pour passer le certificat d'études. Parce qu'à l'époque, passer le certificat d'études, c'était s'ouvrir la voie à tous les petits emplois administratifs dans l'administration française. Donc je rentre en classe de certificat d'études. Comme j'avais déjà fait une sixième sur le plan de la formation, j'étais largement au-dessus du niveau de mes petits confrères, condisciples de la classe. Et là aussi, j'ai eu un coup de chance. Un monsieur qui s'appelait Brévu, qui était directeur de l'école, qui m'appelait le petit Parisien parce que je venais de France, me prend en pitié et puis va voir l'administrateur du village, de la commune mixte, un monsieur qui s'appelait Maraudon. Et il lui dit, écoutez, c'est dommage, ce jeune Slimane, là, il est très bien, il a déjà fait une sixième, est-ce qu'on ne pourrait pas l'envoyer au collège à Tiaret? À l'époque, Tiaret avait un collège tout neuf. Et c'était donc en 54.
13 ans.
Et le Maraudon accepte, avec le recul, je pense que Maraudon, en tant qu'administrateur de la commune mixte, avait comme politique, comme la France de l'époque, d'essayer de faire émerger une petite élite algérienne qui le seconde dans son travail, dans leur travail d'occupation de l'Algérie, ce qui est tout à fait normal.
Ouais.
Et donc, comme je devais aller comme interne au collège de Tiaret, Maraudon m'achète tout le trousseau, parce que mon père n'avait rien.
L'achète sur lui-même?
Non.
Ou l'institution qui paye?
C'est la commune mixte.
D'accord.
Tu vois, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers slips, mes premiers tricots de peau.
Oui.
Mais...
ah, parce qu'à Paris, à Paris, en France...
C'était plutôt spartiate.
D'accord, ok.
Je me souviens de mon frère à... Quand j'étais à Senlis, il ne m'emmenait jamais chez le coiffeur. C'était lui mon coiffeur. Et donc, quand il me coupait les cheveux, Il me découpait rien comme ça, tu vois. Pourquoi il ne me laissait pas les pattes, là. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne me laisses pas ça pour, comme mes petits amis, quoi, tu vois. Il me dit, ça, ceux qui laissent là, c'est les juifs. T'es pas un juif, toi, non? Mais qui vous dit ça? Entre autres, à table sacrée, à table. Et il me faisait porter comme chaussures des godillots. Mais maintenant, ça n'existe plus, ça. C'était des chaussures en cuir, mais avec des clous, comme ceux.
Oui.
Pour ne pas les user. Oui. C'était des clous en bas, dans la semelle, tu vois. Ça faisait un bruit dingue, et puis c'était lourd. Bon, alors, où est-ce que j'en étais déjà?
Monsieur qui vous achète.
Ah oui. M'achetait donc le trousseau, tout. Et me voilà au collège de Thierrette. L'un des employés de la commune m'emmène en voiture jusqu'à Thierrette, me fait rentrer au collège. Et le surveillant général du collège me fait passer un petit examen parce que, comme j'avais fait anglais en sixième, j'ai. Il s'assure que je suis du niveau en anglais. Open the door. et me voilà donc au collège à Thierrette. Alors, au collège à Thierrette, j'avais déjà fait une sixième, puis j'avais fait le certificat d'études. J'ai été toujours un très bon élève. Pendant les vacances, les grandes vacances d'été, je retournais en. Quand je retournais à Flou, l'administrateur de la commune mixte me faisait travailler comme employé temporaire de la commune. Donc je gagnais un peu d'argent, ce qui me permettait d'acheter quelques vêtements et d'avoir un peu d'argent de poche pour le reste de l'année. Ouais. Et j'ai fait ça de la cinquième jusqu'en terminale. J'ai passé, à l'époque, on passait le premier bac. Donc j'ai passé le premier bac.
En quelle discipline? Un bac quoi?
Moderne. Alors, donc, c'était en 59,
oui.
58, 59, on était en pleine guerre de libération. Je vais voir le Morodon, là, l'administrateur du village, et je lui dis, écoutez, avec tout ce qui se passe dans le pays, j'aimerais bien aller continuer mes études en France. Ah, il me dit, monsieur Vedrani, votre frère est un déserteur. Et c'est vrai, j'avais un frère, Monsieur Lillahi Rahmou, qu'à l'époque, fin des années 40, début des années 50, il y avait beaucoup d'Algériens qui s'engageaient dans l'armée française pour aller faire la guerre d'Indochine. Ah. Et donc, Monsieur Lee, c'est donc un de mes frères, qui a fait 4 ou 5 années en Indochine, qui est revenu, toujours militaire dans l'armée française. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, pourquoi les Français ont maintenu, pendant la guerre de libération nationale, des régiments de tirailleurs algériens en Algérie. Parce qu'en fait, la plupart, en tout cas mon frère, avec toute une compagnie, a déserté un soir. Et ils sont partis avec armes et bagages dans le maquis, rejoindre le FLN, la LN. Et
vous ne le saviez pas, évidemment. Vous ne le saviez pas, ça.
Bien sûr qu'on ne le savait pas.
Oui.
On l'a su comment? En fin 1957, il y a des gendarmes qui sont venus au village nègre avec une photo du cadavre de monsieur, là, avec la figure, pour qu'on le reconnaisse. Donc il avait été tué au maquis. Et Marodan me dit, mais la France est reconnaissante, etc., etc. Bref, il me fait un laïus. Et il me dit, ok, je veux bien t'aider. Où est-ce que tu veux partir en France? Moi, j'écris à une dizaine de lycées en France pour demander une place d'interne en terminale, en classe de terminale. Le premier lycée qui m'a répondu, ça a été le lycée Jacques Amyot à Auxerre. Et donc, l'administrateur là de Marodan me paye le voyage en avion, me donne un peu d'argent de poche, et me voilà débarqué à Auxerre, au lycée Jacques Amyot, en terminale. Je m'inscris dans une terminale maths.
En interne,
oui. Ouais. Après 15 jours en terminale maths, je vais voir le proviseur du lycée en lui disant, écoutez, franchement, les mathématiques et moi, ça fait deux. Est-ce que je peux aller en terminale philo? Il me dit, mais monsieur Bedrani, vous pouvez faire sciences ex au lieu de faire maths. Non, je vais aller faire philo. C'est vrai, j'aimais bien la philo, pourquoi? Parce que pendant toute ma période de lycée, j'ai été très bon en littérature et en français. Et donc me voilà en classe de philo. Mais il se trouve, je jure que je ne savais pas, hein, la classe de philo était dans le lycée de filles. Parce que le lycée Jacques Amyot était juste mitoyen au lycée de filles, au lycée Paul Bert. D'accord. Et la classe de philo était une classe mixte. Fille, garçon. Et donc me voilà.
C'était vraiment la philo.
C'était vraiment la philo. Et me voilà donc débarqué dans une classe où il y avait, je sais pas moi, les trois quarts des filles et un quart de garçons. Imaginez la culture que j'avais à cette époque-là.
Bien sûr.
Débarquant de mon bled algérien. Bref, ça a été une année. Riche en événements et en connaissances.
Ouais.
Et à la fin de l'année quand même, je suis allé passer mon bac, ma deuxième partie, à Paris. Pourquoi? Parce que j'avais pris en deuxième langue à parler. Et donc je réussis ma première partie de bac. Et me voilà donc... Ah oui, quand je suis arrivé au lycée Jacques Amyot, un mois après, je fais une demande de pion, de maître d'internat. Mmh. Et donc, je commence à gagner un peu ma vie en étant maître d'internat, tout en étant en terminale. Et donc, Auxerre faisait partie de l'académie de Dijon. Oui. Et je vais donc m'inscrire à l'académie à Dijon en sciences économiques, en première année de sciences économiques.
Au moment du bac, les parents sont encore en vie? Vous étiez toujours en relation avec eux? Vous envoyez toujours un peu d'argent quand vous pouviez ou...
Non, je n'envoyais pas d'argent. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'en avais pas assez. Hein.
Oui.
Et d'une part, puis d'autre part, mon père, grâce aux revenus, c'était un petit peu étoffé. Hein. Mmh. Il avait déjà... Il n'était plus berger chez les autres, il avait son propre troupeau, grâce à l'argent qu'il avait économisé depuis plusieurs années. Alors.
Et donc à Dijon, vous vous inscrivez à l'université à Dijon?
À Dijon, oui. Et tout en étant maître d'internat. Et à Dijon, je rencontre ma femme. Mmh. On a un premier bébé. Et je termine ma licence fin 65.
Votre femme, juste pour la précision, elle est française?
Française, oui.
D'accord.
C'était une infirmière. Et me voilà donc fin 65 avec une licence d'économie. J'écris une demande d'emploi à l'université d'Alger et on me répond presque immédiatement en m'offrant une place d'assistant à la faculté d'Alger en économie. À l'époque, c'était la faculté de droit et de sciences économiques.
Juste avant, vous faisiez philosophie au bac et vous allez à l'université pour... Vous allez à l'université pour faire des études d'économie. Pourquoi ce changement? Vous n'avez pas pensé à faire philosophie à l'université?
Pour des raisons idéologiques, parce que je pensais que c'était, l'économie, c'était quelque chose d'important pour l'Algérie. Et donc, j'ai voulu faire économie pour ça, pour cette raison-là.
Vous étiez politisé ou c'est d'un seul coup vous avez réalisé que c'était quelque chose d'important?
J'étais en classe de philo, j'ai été quand même relativement, même très politisé parce que je fréquentais beaucoup la gauche, le Parti communiste français à l'époque, les gens de gauche d'Auxerre, quoi. Ouais. Je manifestais avec eux, etc. Donc j'avais quand même relativement politisé. Mais par exemple, quand j'étais à Auxerre en terminale, je n'avais pas de contact avec l'organisation du FLN en France. Ce n'est que quand je suis allé à Dijon, quand je suis rentré pour la première fois en cours, pour mon premier cours d'économie, que j'ai été abordé par quelqu'un qui est devenu un de mes vieux amis, et qui l'est encore jusqu'à maintenant, Najraoui Abdelkrim Abdou, qui vient me voir en me disant etc. et qui m'enrôle immédiatement dans l'organisation étudiante FLN de Dijon.
Quelle année?
C'était en 65.
65, d'accord. Ouais. Après l'indépendance.
Attends. Qu'est-ce que je dis? Non, pas en 65. C'était en 62.
62, juste.
1961.
D'accord.
Hein? J'ai passé mon bac en 61. Juste en 61.
Oui. Et donc, économie?
Donc, j'ai fait économie. Et en 1965, j'écris à Alger. Il me donne une place de. Il m'affecte une place d'assistant en économie. Et voilà comment je débarque à Alger. Ma femme est venue un an après avec notre premier bébé.
D'accord.
Et m'a dit que c'était déjà.
Et quand vous disiez, là à l'instant, vous répondez que c'est pour l'Algérie. Je fais de l'économie parce que je savais que c'était utile pour l'Algérie. C'était si évident que ça, il y avait d'autres choix possibles, c'était ça ce qu'il fallait faire, c'était quoi dans la tête, qu'est-ce qui se passait dans la tête à ce moment-là?
Franchement, je n'avais pas envisagé d'autres alternatives. C'était vraiment, l'économie, c'était quelque chose de qui me semblait être très important. Oui. Le développement du pays, c'était le développement économique. Et donc, j'ai choisi économie tout à fait.
Et à ce moment-là, vous pensiez que l'Algérie allait avoir son indépendance en 62?
Ah, quand j'ai fait économie. Ah oui, ça ne faisait pas de doute, bien sûr.
Oui, c'était évident. C'était devenu quelque chose d'évident. Oui, une question de temps,
absolument.
Un peu de temps et...
Absolument,
oui. Oui, d'accord. Donc, il faut se préparer. D'accord, entendu. Et donc, vous arrivez avec votre licence ici, et vous avez un poste d'assistant à l'université d'Alger.
À l'université d'Alger, avec...
Qui était la seule dans le pays, non?
Non, ce n'était pas la seule. Il y avait Oran, il y avait Constantine aussi.
D'accord.
Et puis, à Alger, je me retrouve dans ce milieu universitaire... Qui était aussi très intéressant. Moi, j'étais assistant avec le prof d'économie à l'époque, c'était Tiano, qui avait écrit un grand ouvrage, Le Maghreb entre les mythes. Et puis, il y avait les gens du Parti communiste, il y avait Tiano qui était plutôt un libéral, et puis il y avait surtout tous les... Il y avait surtout tous les pieds noirs, pas les pieds noirs, pieds rouges qu'on les appelait à l'époque. Les pieds rouges. C'est-à-dire les coopérants français qui sont venus aider l'Algérie à remplir les postes vacants en matière d'économie, en matière d'enseignement. Hein. Et c'est comme ça que. Fatima Ossedir a dû vous parler de cette époque-là aussi. Okay. Vraiment, il y a eu de grands noms d'économistes, de sociologues.
Je me suis demandé ce matin français si René Dumont était là.
René Dumont est passé en Algérie plusieurs fois, mais il n'a pas enseigné ici.
Non. D'accord.
Mais Bourdieu, d'autres sociologues dont je ne me souviens plus le nom, mais qui sont devenus célèbres en France. Vraiment, ces années-là ont été des années de foisonnement intellectuel en Algérie absolument fantastiques. Disons, dans les années 60 et jusqu'à la moitié des années 75, c'était vraiment extraordinaire comme foisonnement intellectuel en Algérie. L'Algérie, à l'époque, c'était la Mecque du tiers-monde, hein, c'était...
Oui. Bien sûr. Vous étiez dedans?
Ah oui, on était en plein dedans.
Avec des relations personnelles, vous allez chez les uns et les autres, vous rencontrez, les conférences, les cours, tout ça.
Absolument, oui. Mm-hmm. Oui.
D'accord.
C'était vraiment extraordinaire. Et puis on avait encore des étudiants qui étaient formés à l'école encore. À l'école française. Moi, je me souviens qu'en tant qu'assistant, quand vous allez faire mes séances de TD, mes étudiants, on avait des débats houleux au niveau de ma classe, parce que moi, j'étais plutôt marxiste. Plutôt trotskiste, ouais. Alors qu'en face, vous avez des étudiants et des étudiantes qui étaient plutôt paxistes à l'époque, communistes à l'époque.
Communistes, oui.
Staliniens, hein.
Ouais. Il y avait des maoïstes aussi à l'époque?
À l'époque, oui, bien sûr.
Ouais.
Et donc, on avait j'avais des étudiants qui étaient vraiment brillants, je veux dire, qui était capable de venir avec des arguments, des textes précis, en disant, voilà, monsieur, voilà, j'ai trouvé tel article. Vraiment, je conserve un très, très bon souvenir de cette époque-là et du bouillonnement intellectuel qu'il y avait à cette époque-là.
Et les textes, comment il les trouvait? Parce qu'avant, évidemment, on est à une époque où il n'y a pas d'Internet. Donc bon, oui. Ça veut dire que les livres, les textes étaient faciles d'accès dans ce pays? On est 2-3 ans après l'indépendance.
Il y avait quand même. Enfin, il y avait ce qu'il y avait à l'époque. Hein,
oui, bien sûr, évidemment.
On trouvait des revues, quand même. On trouvait des. L'université et notre faculté étaient abonnées à des revues, bien sûr.
Et des livres aussi?
Et des livres, oui, bien sûr. Oui.
Il n'y avait pas une sorte de. Ça, c'est entre parenthèses, mais. Moi, je suis tunisien, je veux dire, on n'avait pas accès à des livres, c'était interdit, c'était censuré.
À l'époque, il n'y avait aucune censure, hein. Ça, je m'en souviens très bien.
Donc, un livre communiste qui sort, je ne sais pas où, dans le monde, pouvait arriver en Algérie facilement.
Ah, oui. On achetait les œuvres complètes de Lénine dans toutes les librairies d'Alger à l'époque.
D'accord.
Moi, j'ai acheté les œuvres complètes de Marx dans une des librairies d'Alger, hein, dans la collection La Pléiade.
C'était subventionné?
Non.
Non, je pense pas. D'accord. Et la bibliothèque de l'université, quand vous arrivez, c'était quoi cette bibliothèque? C'était une bonne bibliothèque? C'était quoi? Riche? Bien.
C'était une bonne. La bibliothèque de sciences éco, hein, je sais pas.
Oui.
C'était une bonne bibliothèque, oui. D'autant plus qu'on avait une une femme directrice de cette bibliothèque, qui était Madame Guerouge, qui était une militante communiste de la première heure, hein,
oui.
Qui s'occupait très bien, qui s'occupait très bien de la bibliothèque, qui nous commandait tous les ouvrages qu'on voulait. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de contraintes en matière d'achat d'ouvrages et de revues. Dans, fin des années 60, début des années 70, hein, je parle.
D'accord. Et les étudiants, je reste un peu là-dessus parce que je pense que c'est des détails qui sont importants. Les étudiants qui fréquentaient l'université à ce moment-là, c'était en gros, sans trop charger le mot, de quelle classe sociale ils provenaient ? C'était plutôt des familles aisées, c'était n'importe qui, c'était quoi ?
Je crois que y avait un peu de tout. Hein. Il y avait un peu de tout. Pourquoi ? Parce que la société... N'oublions pas qu'on était déjà à la fin des années 60. Hein.
Mmh, oui.
Donc on avait déjà 8 ans d'indépendance. Mmh. La plupart des jeunes qui rentraient à l'université, c'était des gens qui avaient déjà connu une partie de l'école française, classique, mmh. et ensuite une partie de l'école algérienne, post-indépendance. Mmh. Des gens, c'était des jeunes qui étaient plutôt bien formés, bien formés en français. Donc... capable de disserter sur un texte de façon à peu près normale, etc., tu vois. Et il y avait, je pense, déjà un commencement d'ascension sociale assez important, même à l'époque. Okay, enfin, à partir des années 70, c'est sûr que les classes populaires ont massivement intégré l'université. Hein.
Grâce à un système de bourse, donc à des prises en charge.
Scolarité, tout est gratuit, du primaire jusqu'au supérieur. Hein.
Et interne. Hein. Pour l'université, les étudiants étaient internes, du moins pour ceux qui en
oui,
avaient
oui.
besoin.
Oui, bien sûr, avec des systèmes universitaires.
Oui. Hum. Alors, on va revenir à, après la licence et l'accès au poste. Juste une question un peu fétiche, mais je crois avoir déjà la réponse. En général, je pose toujours une question à tout le monde. À quel moment vous avez un livre de votre choix, enfin un livre à lire, en dehors des livres scolaires, je veux dire. Vous n'êtes pas né dedans, ça se voit, ce que vous me racontez, vous n'êtes pas né dans les livres.
Oui, c'est sûr, oui.
Oui.
Oui, mais je ne suis pas né dans les livres, mais il se trouve que, vous me rappelez un souvenir, il se trouve que quand je suis parti en France, quand j'étais jeune, quand Atala m'a emmené à Senlis, oui. il se trouve que le petit appartement où on habitait était mitoyen à l'appartement d'une dame qui vivait toute seule et qui avait plein de petits fascicules écrits par la propagande française durant la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Et j'ai lu plein de ces petits fascicules de propagande, si bien que j'ai connu la Première Guerre mondiale. Donc j'avais 9, 10 ans, 11 ans, et je lisais beaucoup à Senlis. Et j'ai pris le goût de la lecture
à ce moment-là.
À ce moment-là. Et donc, quelle était votre question ?
Ben, c'était ça, parce que pour moi, c'est le livre, l'accès au livre, ça veut dire l'accès à la littérature, à s'ouvrir, et ainsi de suite. Je me trompe peut-être, mais moi, les livres, je les ai découverts, j'avais plus de 15 ans.
Moi, j'ai découvert beaucoup, comme je le dis, j'ai découvert
oui.
avant. Hein.
Oh, oui. Fatma Bousdir, hier, elle nous a dit qu'elle avait aliné dans les livres.
Ah, Fatma, c'est une famille d'intellectuels. Ah,
ben voilà, donc c'est une famille d'intellectuels. Donc ça fait des... Parfois, ça influe sur l'itinéraire des gens.
Ah, oui, c'est sûr. Ouais.
Oui. Et donc la thèse a été faite beaucoup plus tard, hein,
Entre-temps, j'avais fait J'avais fait des... En 1965, je suis rentré à l'université J'ai fait un mémoire, j'ai fait un diplôme d'études supérieures, ce qu'on appelait à l'époque, le DES, diplôme d'études supérieures en économie. Et en plus, j'ai fait, au début des années 70, un diplôme d'études supérieures en sciences politiques. J'ai fait un mémoire qui a eu quelques échos assez favorables sur les élections communales dans la Daïra d'Afou, que j'ai présenté comme mémoire pour mon diplôme d'études supérieures en sciences politiques. Et quelques années après, donc en 77, j'ai fait la thèse en économie, la thèse de doctorat en économie.
Quand vous entrez donc ici, vous avez un poste à l'université, vous commencez à voir votre situation. Les parents sont toujours vivants, bien sûr.
Oui.
Oui. Enfin, bien sûr, c'est ce que j'avais conclu tout seul. Ils étaient vivants. Vous êtes rentré, bien sûr, dans le village, enfin, chez vous.
Oui.
À ce moment-là, mais vous étiez perçu comment dans le village? Vous êtes le petit gamin qui a réussi, personne ne vous regardait, c'était pas important. C'était quoi comme événement?
Si, j'étais vraiment... Bon, dans la famille d'abord, j'étais vraiment très considéré, parce que j'ai comme réussi à faire des études.
Vous étiez le seul de...
J'étais le seul à avoir fait des études supérieures, oui.
Oui.
Mais mes deux autres frères qui ont... L'un a passé le certificat d'études, Bachir.
Oui.
Il a passé le certificat d'études et il rentrait comme petit employé aux impôts, je crois, à Flou. Et puis il s'est engagé dans l'armée française. Et il a fait toute la guerre de libération nationale dans l'armée française. Je crois qu'il a... Quand il y a eu, en 1962, quand il y a eu l'indépendance, il a fait partie de ces soldats français qui ont rejoint la force locale à l'époque, qu'on appelait.
Ah, d'accord.
Ces gens-là. Bref, mais je crois que... Et puis, donc il a été démobilisé de l'armée française, et en tant que civil, il est retourné travailler aux impôts. Et le pauvre, je crois qu'il en a tellement vu pendant cette guerre de libération qu'il est devenu alcoolique. Et il est mort de ça, d'ailleurs. L'autre frère, Nasser, lui, il n'est même pas arrivé au certificat d'études, mais il a fait des petits boulots aussi au niveau de l'administration communale après l'indépendance. Et puis... Une fois que j'ai gagné un peu d'argent, je l'ai aidé à investir dans une automobile. Bref, il s'est débrouillé. Il a terminé relativement à l'aise.
D'accord. Alors, à quel moment vous êtes appelé à rejoindre le ministère?
Alors, c'est qu'en 67, quand c'est arrivé d'ailleurs, je ne me souviens plus comment c'est arrivé. Mais en tous les cas, en 1967, je suis rentré au ministère du Plan comme consultant, hein, pas comme employé définitif temps plein.
Parce que vous avez déjà un poste à l'université.
J'avais déjà un poste à l'université. Et donc là, j'ai trouvé un jeune coopérant français qui est devenu plus tard député en France. Comment il s'appelait, ce gars-là? Je ne me souviens plus de son nom. Mmh. Et qui était aussi un économiste et qui m'a appris beaucoup de choses en économie, en matière d'agriculture et de planification agricole.
C'est à ce moment-là que vous... Parce que jusque-là, vous avez fait économie en général, vous n'avez pas spécialement fait économie agricole ou rurale, ce qu'on appelait. C'est au moment où vous rejoignez, en tant que consultant, donc le ministère du Plan, que vous commencez à vous intéresser
À l'agriculture.
Cette expérience au ministère, c'était quoi? En gros, ça consistait en quoi, votre travail?
À l'époque, c'était vraiment très intéressant, parce que à l'époque, on voulait être une économie planifiée. Hein.
Oui.
Et donc, tout ce qui était investissement public en matière d'agriculture et d'hydraulique agricole passait par le plan. C'est-à-dire, quand le ministère de l'Agriculture décidait d'investir pour développer l'irrigation dans telle région, il faisait un dossier qu'il envoyait au plan, qui décidait d'accorder cet investissement ou de ne pas l'accorder.
D'accord.
Donc, moi, j'étais en charge d'examiner les projets d'hydraulique agricole et d'agriculture quand ils arrivaient au plan, pour donner mon avis en tant qu'économiste sur la bonne tenue de ces projets.
Et une fois que vous validiez, si c'est même en personne, enfin avec vos collègues, c'était, par exemple, si vous validez, c'était bon.
C'était bon, oui.
D'accord, donc, c'était vous.
Et donc le ministère du Plan disait au ministère des Finances, voilà, ce projet, il faut le financer.
Et après, c'est le ministère de l'Agriculture qui gérait.
Qui gérait, bien sûr. Et donc, tu comprends bien que quand un dossier comme ça nous parvenait, au niveau du plan, bon, on faisait bien sûr notre travail d'évaluation, et on allait sur le terrain, etc., etc. C'est comme ça que j'ai appris un peu ce qui se passait dans l'agriculture.
Oui.
OK.
Wow. Et est-ce que, juste, c'est presque vraiment par curiosité, est-ce que vous avez regretté après une validation d'un projet, un projet X quelconque, est-ce que vous avez en tête quelque chose que vous avez validé mais que vous avez regretté après?
Pas à ma connaissance.
Non.
Pas à ma connaissance.
D'accord. Donc globalement, c'est resté dans une certaine cohérence.
Oui. Puis à l'époque, si tu veux, les projets étaient tellement évidents, si on peut dire,
ouais.
Il y avait tout à développer. On n'avait pas de problème très important en matière de décision. Surtout qu'à l'époque, on avait quand même une force de travail qualifiée au niveau des administrations publiques qui était quand même relativement importante. Donc quand on recevait un dossier, le dossier était relativement bien ficelé.
Et ça, c'est un héritage de l'administration française?
C'est un héritage de l'administration française.
Les fonctionnaires étaient algériens?
Les fonctionnaires étaient algériens, mais il y avait aussi beaucoup de coopérants.
Qui étaient ingénieurs, experts.
Même de grands ingénieurs, hein,
ouais.
qui étaient coopérants au niveau de. Et qui étaient des gens, en général, des gens de gauche, hein, des gens vraiment intéressés par le développement économique de l'Algérie, quoi.
Vous avez quelques noms en tête?
Oh non, j'ai pas de nom.
Non.
J'ai pas de nom en tête. Et vraiment, sur le plan technique, j'ai beaucoup appris. Ou quoi. Par exemple, tout ce qui est hydraulique agricole à l'époque, c'est là où j'ai appris vraiment ce que c'était que l'hydraulique agricole. Qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'était qu'un forage? Comment on fait un forage? Qu'est-ce que c'est qu'un piézomètre? Qu'est-ce que c'est que les techniques de l'hydraulique agricole?
Relation avec
J'ai appris ça avec des ingénieurs français du service des études hydrauliques à l'époque, le SES. Il y avait vraiment de braves gens qui... Ils passaient des heures avec moi pour m'expliquer leur travail d'hydraulicien. Quoi. C'est vraiment...
C'est presque une deuxième formation.
C'est presque une deuxième formation. Hein. Et c'est resté dans la tête. Hein. Maintenant, je suis un canal sur les problèmes d'hydraulique agricole. Enfin, les grands problèmes, je veux dire, les problèmes techniques de base. Quoi.
Oui. Au ministère du Plan, est-ce que je me trompe où il y avait Nadir Maarouf à ce moment-là?
Non, Nadir Maarouf n'était pas au plan à l'époque, non.
Non.
Il est beaucoup plus tard. Mais...
Oh, c'est plus tard.
Pas au plan, mais je l'ai connu beaucoup plus tard, Maarouf, à l'université.
D'accord. Est-ce que vous seriez toujours, enfin, comment dire, c'est pas une question uniquement idéologique, mais est-ce que pour vous l'économie planifiée, ça vous semble quelque chose d'important dans le développement d'un pays? Je parle des pays du Sud surtout. Est-ce que c'est une solution à la situation actuelle dans plusieurs pays, revenir à l'économie planifiée? Est-ce que c'est quelque chose qui...
La planification, quand elle est bien faite, elle est indispensable. Mais si... Les grandes multinationales sont des entités qui sont parfaitement bien planifiées. Et c'est pour ça qu'elles font beaucoup de profits. Malheureusement, la planification qui est faite dans les pays en voie de développement n'est pas la planification qui est faite de façon aussi rigoureuse et aussi scientifique que dans les grandes entreprises multinationales. Moi, je crois qu'on a fait beaucoup d'erreurs en matière de planification. Et d'ailleurs, c'était même pas... À l'époque, il y avait beaucoup d'investissements qui ont été faits de façon pas du tout planifiée. Mmh. Tout simplement parce qu'il y avait un responsable qui avait assez de poigne à un certain moment... pour décider de faire telle chose à tel endroit. Point.
Comme quoi, par exemple?
Je sais pas, moi. Décider de faire une usine de pâte à papier à Saïda parce qu'il y avait de l'eau souterraine. Hmm. Alors que Saïda, c'est une... Heureusement qu'on a... Je sais pas, moi, c'est... C'est faire une sucrerie de la betterave à sucre à Guelma, par exemple, qui se trouve à 40 km des champs de betteraves. Donc la betterave devait être transportée sur 40 km, etc. Je ne veux pas dire que tout était faux.
Oui, non, bien sûr, je comprends bien. Mais cette expérience de l'économie planifiée, c'était quand même un moment important pour l'Algérie. C'était un moment de consolidation de l'indépendance, de la fondation de l'État indépendant.
On a essayé effectivement, à l'époque, donc à l'époque boumédienne, disons, en gros. Hein,
oui.
On a essayé de construire... une économie relativement intégrée.
Oui.
C'était l'époque, début des années 70, de ce qu'on appelait les industries industrialisantes.
Oui.
Avec la théorie de Gérard de Bernice.
Bien sûr.
Bon, il y a eu quelques... Il y a eu, c'est vrai, un début de développement économique assez intéressant, parce que c'est à ce moment-là qu'on a créé des usines d'engrais, qu'on a essayé de, comme on disait à l'époque, de noircir un petit peu la matrice interindustrielle.
Mmh. Oui.
Bon, ça a donné quelques résultats. Mais à la mort de Boumédienne et au début des années 80, la planification a plus ou moins disparu. Ce qui n'était pas non plus un mal. Hein.
Non.
C'était... Tout dépend des gens qui sont au pouvoir et de la façon dont le pouvoir politique est exercé. Mmh. Une planification qui n'est pas fondée sur un pouvoir politique... Ah. qui correspond n'a pas grand sens.
La réforme agraire est sortie du ministère du Plan ?
La réforme agraire ? À l'époque, on appelait ça la révolution agraire. La révolution agraire, début 70, les années 70, c'était une affaire du président de la République, en définitive. C'était, enfin, tout ce qui sortait, c'était du niveau de la présidence de la République, quoi. Comme actuellement, je veux dire.
Il avait ses conseillers, ses consultants.
Oui, bien sûr, oui. Mais qui était à l'époque, qui était très influencé par les éléments qui étaient plutôt de gauche, plutôt pro-communistes.
D'accord. Hein,
souvenez-vous, à l'époque, pro-communiste, pas forcément stalinien. Hein.
Non.
On était plutôt titiste à l'époque. Hein. La révolution agraire était inspirée du régime de l'autogestion en Yougoslavie, hein, qui était différent des sauve-causes
soviétiques. Et donc, est-ce que il y a la révolution agraire, donc qui dure plusieurs années,
qui partait d'une bonne idée, enfin, je veux dire d'une idée généreuse.
C'était quoi l'idée? À votre avis, l'idée principale derrière ça, c'était un truc politique, un jeu politicien? C'était vraiment un véritable projet de développement? C'était quoi?
C'était quoi pour qui?
Slimane Badrani pouvoir... aujourd'hui. Slimane Badrani aujourd'hui. Comment il regarde ça?
Je regarde ça comme étant un gros gâchis.
Oui.
Oui. Pourquoi ? Parce que c'était une idée généreuse, mais qui était très mal appliquée sur le terrain, qui ne tenait pas compte des réalités sociales objectives, et donc qui a coûté beaucoup d'argent pour des résultats tout à fait insignifiants sur le plan du développement économique.
Ouais.
Alors, une des bonnes choses qu'on peut mettre à l'actif de la révolution agraire à l'époque, c'est qu'il y a eu un développement d'infrastructures agricoles qui est financé donc sur le budget d'équipement public, qui a été relativement important. Et c'était vraiment les premiers grands investissements dans l'agriculture algérienne, grâce à la révolution agraire.
Oui.
Développement des systèmes un plus grand développement des systèmes d'irrigation, des infrastructures rurales plus importantes, la construction des 1000 villages socialistes, tout cela, c'était des investissements qui ont été faits dans l'agriculture, qui ont permis un développement de l'emploi dans les zones rurales. Ça, c'est vraiment positif sur le plan de la... Mais sur le plan de la production agricole, c'était plutôt très modeste, voire négatif.
Ça n'a pas donné les résultats.
Ça n'a pas donné les résultats fantastiques, oui.
Parce qu'il y avait...
D'ailleurs, ça a été abandonné relativement rapidement à la fin des années 70.
Oui.
Hein, et les gens ont commencé à récupérer leurs terres dans... Je ne me souviens plus de la date, quand est-ce que les gens qui ont été nationalisés.
72 ?
Ça, c'est début des années 70. Ouais. Mais quand il y a eu la fin de la révolution agraire, les gens ont récupéré les terres. Les gens qui ont été nationalisés ont récupéré les terres.
Oui,
c'est beaucoup plus tard, c'est les années 80.
Oui. D'accord. Mais alors, en quoi c'était un gâchis ? Dans le sens où en termes de... L'objectif était quand même d'augmenter la production, d'arriver à une sorte d'autosuffisance alimentaire à l'époque, et que ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qui n'avait pas marché?
Je crois que c'était tout simplement de laisser... d'aider les agriculteurs qui avaient besoin d'investir à investir, à développer leurs propres outils de travail. Par exemple, aider les agriculteurs qui n'avaient pas les moyens de faire des forages, par exemple, pour ramener de l'eau, oui. parce que l'eau est l'un des principaux facteurs de production, sinon le principal. Aider le secteur privé agricole à se développer.
Oui.
Ce qu'ont fait, par exemple, les Marocains. Beaucoup oui. mieux que nous.
Mais ils continuent à être de gros importateurs, les Marocains, de produits alimentaires.
Mais ils sont aussi de gros exportateurs de produits agricoles, en particulier de maraîchage.
Oui, c'est vrai. Mais ça n'a jamais été la ligne algérienne de devenir un gros producteur, exportateur.
Non, si. Ça a été plutôt l'inverse. Ouais.
Ouais.
Nous, l'Algérie a visé, dans le cadre de la planification globale, ouais. a visé d'abord la satisfaction du marché intérieur, ça c'est vrai.
Produire pour le marché intérieur.
Ouais.
intérieur. Mmh. D'accord. Et est-ce que si vous comparez, je sais que vous connaissez l'expérience tunisienne et d'autres expériences,
ouais.
l'égyptienne, à mon avis, vous connaissez tout ça. C'était quoi la différence fondamentale? En Tunisie, c'est la résistance des grands producteurs essentiellement. Qui a fait échouer l'expérience tunisienne. Pour aller très vite, hein. C'est les gros producteurs.
La Tunisie a connu cette période de planification avec Ben Salah, je crois.
Oui, bien sûr. La même période, 62-63.
À la même période.
Oui.
Mais...
C'est un autre modèle.
C'est un autre modèle.
Oui.
Et puis, je pense que la Tunisie, après cette période Ben Salah, a laissé se développer le secteur privé de façon assez importante.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que, par exemple, cette fameuse région maraîchère, là, qui s'est beaucoup développée au centre de la Tunisie.
Sidi Bouzid,
voilà. Ouais. Les années 80, je pense.
Mais ça a vraiment démarré, ça a commencé à prendre, c'est 92. Ouais. C'est là où on a commencé à avoir des grandes productions. Et Sidi Bouzid est passé d'une région qui n'existait pratiquement pas sur la carte agricole.
Qui était une région pastorale.
Pratiquement pas. Mmh. Et aujourd'hui, c'est la première région productrice.
De maraîchage, oui.
Mais c'est des choses destinées à l'export essentiellement.
Ah ?
À l'export. On exporte.
Des fruits et légumes ?
Essentiellement. Hein ? Hors saison.
Mais l'agriculture algérienne s'est développée surtout à partir des années 80.
Hein. Oui.
Avec des investissements, surtout des investissements privés. Par exemple, avec beaucoup d'aide de l'État aussi. Hein. Par exemple, dans les régions sahariennes, l'aide de l'État a été décisive pour la création de grandes exploitations agricoles privées. Et si bien que maintenant, l'approvisionnement en légumes de l'Algérie du Nord est fait en grande partie à partir des productions sahariennes, hein, Biskra, El Oued.
Oui. Vous avez publié un article, je crois. Un article, il y a au moins une version article, si c'est un livre, c'est peut-être autre chose. Avec ce titre provocateur dans le sens agriculture algérienne, nationalisation ou privatisation.
Étatisation
ou privatisation. La fin de la révolution agraire, et voilà. C'est une sorte de bilan.
Oui, voilà.
Hein? Ouais, c'est une sorte de bilan, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà.
En gros, vous aurez pu l'intituler Que faire maintenant? Et est-ce que cet article-là était basé sur un bilan que vous avez fait, docteur Slimane, de cette période de la réforme agraire? Ou est-ce que vous-même, c'est le consultant qui parlait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a regardé un bilan ou est-ce que c'est un consultant?
Non, j'ai regardé un bilan et c'était à l'époque où je me suis aperçu qu'en définitive... l'autogestion, ou ce qu'on appelait l'autogestion à l'époque, ou les coopératives de production agricole, toutes ces choses-là, c'était des choses qui ne fonctionnaient pas du tout chez nous et qu'il fallait changer d'orientation. Et qu'il valait mieux laisser l'initiative privée se développer plutôt que d'essayer de maintenir des formes juridiques de production qui étaient inefficaces. Okay. Parce qu'en fait, cette idée de maintenir la production collective dans l'agriculture s'est maintenue jusqu'à la fin des années 80, voire jusqu'au début des années 90, où les domaines autogérés ont été scindés en plusieurs exploitations agricoles, mais toujours en maintenant la forme collective des moyens de production.
Oui.
Même jusqu'à maintenant, en fait, il y a les EAC, les exploitations agricoles collectives, qui existent sur le papier, mais qui, en fait, sur le plan de la réalité, n'existent plus. Les exploitations agricoles collectives, les EAC, les travailleurs se sont divisés les terres et les moyens de production et se sont devenus des exploitations privées, tout à fait, gérées de façon totalement privée. Ouais.
La grande discussion, le grand débat qui existe depuis maintenant des années un peu partout sur les expériences de coopératives, notamment dans notre région, l'Égypte, encore une fois, la Syrie, ici, au Maroc, Tunisie. Est-ce que c'est le modèle, l'idée même de la réforme agraire ou révolution agraire dans ce sens-là, dans le sens de mettre en commun collectivisation, étatisation et ainsi de suite. Est-ce que c'est cette idée-là qui ne pouvait pas fonctionner ou est-ce que les résistants, de la part d'autres qui avaient des intérêts totalement différents, par exemple les grands propriétaires, c'est cette résistance-là qui avait gagné. Au fait, est-ce que c'est un échec ou est-ce que, de toute façon, intrinsèquement, ça ne pouvait pas marcher?
Je crois qu'intrinsèquement, ça ne pouvait pas marcher. L'organisation de la production de façon collective, c'est quelque chose qui, au moins dans l'agriculture, n'est pas réaliste. Non, parce que... Parce que le formatage des individus, la façon dont dans la société fabrique ses membres, ne correspond pas à cette idée qu'il peut être viable de produire collectivement des biens ou des services.
Si, ça n'a rien de culturel, si.
Pourquoi ça n'a rien de culturel?
Non, je pose une question. Est-ce que c'est nos sociétés qui ne pouvaient pas accepter le modèle ou est-ce que c'est dans si on se déplace, je ne sais pas, au Pérou, au Vietnam, ça pouvait marcher?
Donnez-moi un pays où ça a marché.
D'accord. Donc, ça ne pouvait pas marcher.
Ça ne pouvait pas marcher.
D'accord. Est-ce que une dernière question sur cette discussion-là. Est-ce que le mal ne vient pas chez nous, le large, chez nous large, est-ce que le mal ne vient pas de la disparition des ce qu'on appelle les communs, au fait? C'est comme là où la propriété collective.
Parce qu'ils ne correspondent plus à l'état de la société. Par exemple, dans la steppe, qui est ma région natale, les terres arches, qui appartiennent donc de façon collective à l'ensemble de la tribu, étaient exploitées, pas de façon collective, mais chaque éleveur avait son troupeau et utilisait les parcours de la steppe comme bon lui semblait. C'était possible tant que la population était petite. Mais dès lors que la population augmente et que la superficie de la steppe, elle, reste stable, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les gens, petit à petit, vont essayer, puisque la population augmente, ils vont essayer de protéger l'espace sur lequel ils faisaient pâturer leurs troupeaux. Donc ça veut dire qu'il y a eu, petit à petit, appropriation privative, avec la loi du plus fort, hein, appropriation privative des espaces steppiques. Donc la propriété collective des terres steppiques a petit à petit disparu. Si bien que, à l'heure actuelle, par exemple, hein, les terres de la. Tu ne peux pas aller pâturer dans un endroit si cet endroit n'est pas reconnu par tes voisins comme étant
mes terres.
Ta propriété de facto.
Oui.
Donc la propriété, les terres communes étaient exploitées de façon traditionnelle tant que la population était très limitée. Dès lors que la population et les besoins deviennent importants, cette propriété commune disparaît.
D'accord. À quel moment...
C'est un peu la même chose. Regarde, par exemple, ce qui se passe sur le plan maritime. Ce qui se passe entre la France, le Royaume-Uni, etc.
Oh.
Pour les zones de pêche.
Ouais.
C'était des zones de pêche qui étaient communes à tout le monde. Mais à partir du moment où le nombre de pêcheurs et les besoins sont devenus extrêmement importants, chacun veut essayer de préserver... Donc ils privatisent, en fait.
Oui, ces richesses.
Vous restez... vous êtes toujours à l'université, mais le ministère, vous continuez à travailler avec le ministère. Vous avez continué longtemps après.
De la planification. J'ai arrêté en fin des années 70.
Il y a toujours un ministère de planification, officiellement ?
Ils ont refait un ministère, je crois, des statistiques et de la planification.
D'accord. OK. Et vous vous concentrez progressivement sur... votre travail de chercheur et d'enseignant ?
Uniquement sur les problèmes d'économie et de sociologie agricole et alimentaire.
Et toujours ici à l'ENSA ?
Non, avec prof d'économie qui s'appelle Binashnu. On a fondé ensemble, avec quelques autres personnes, en 1975, un centre de recherche qui s'appelle le CREAD. Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. J'ai travaillé, tout en étant enseignant à l'université, j'ai travaillé dans ce centre de recherche jusqu'à il y a quelques années. Hein.
C'est une institution de l'État, le CREAD.
Oui, c'est un centre de recherche de l'État, oui.
Oh.
Dans lequel a travaillé, par exemple, Fatma Ousseddir. Hein.
Fatma, Omar aussi.
Ouais. Ouais. J'étais à la fois enseignant à l'université et en même temps, chercheur au CREAD.
Oui. Chercheur au CREAD. L'université est ici, à l'école normale de l'ENSA.
Non, en sciences économiques d'abord, hein, jusqu'en 1989. En 1989, j'ai rejoint l'ENSA.
D'accord. Et jusqu'en 1989, vous avez enseigné économie en général, économie agroéconomie. Vous avez enseigné quoi?
Surtout
à l'université?
Économie générale et économie agroalimentaire à l'université, oui.
D'accord. Et ici, c'est devenu...
Économie agricole et alimentaire, oui.
Jusqu'à la retraite. Vous continuez jusqu'à la retraite officiellement, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Et vous avez évidemment dirigé des thèses et des masters.
Ouais. Oui, tout à fait, oui. J'ai été directeur du CREAD pendant quelques années, en 85, 86, 87.
Et là, vous étiez déchargé, du coup?
Non, j'étais toujours à l'université, mais j'étais directeur du CREAD. J'ai dirigé le CREAD pendant 3 ans, je crois. Mais j'y suis resté ensuite après, en tant que chercheur, tout simplement.
Et pour vos publications, pour vos recherches et publications, vous vous êtes concentré sur quoi essentiellement ?
Ben, essentiellement, moi, mon problème a toujours été d'essayer de répondre de façon aussi opérationnelle que possible aux questions que se posent à la fois les agriculteurs dans leur propre travail d'agriculteur, essayer de résoudre les difficultés auxquelles ils étaient rencontrés et essayer d'aider les responsables politiques de politique agricole à mieux orienter leur politique agricole et leur politique alimentaire. Ça, c'était vraiment les grandes lignes directrices du travail de mes travaux de recherche.
Toujours dans la poursuite, l'idée de l'utilité, je rentre parce que c'est utile pour mon pays, je fais économie pour le... Parce que...
Je suis plutôt contre les recherches de type strictement académique.
Oui, oui.
C'est pas que je sois contre, mais disons que c'est pas ma priorité en tant que chercheur.
Vous êtes toujours consulté, j'imagine, par les autorités, enfin par les acteurs politiques ?
Non.
Non ?
J'ai collaboré avec Omar Bessaoud, par exemple,
ouais.
Plus la collaboration avec des chercheurs universitaires, comme par exemple Rachid Ben Issa. Quand il y a un ministre qui était plutôt proche des universitaires, on collaborait avec lui. Sinon... Mais disons que la plupart du temps, la collaboration avec les ministères d'agriculture... Ils ne la veulent pas. Au niveau de l'administration agricole, ils n'aiment pas qu'on s'occupe, ils n'aiment pas qu'on mette notre nez dans leurs affaires.
C'est l'un des problèmes de l'agriculture algérienne.
Je te donne un exemple. L'Algérie dépense des devises de façon relativement importante dans l'importation de génisses pleine à partir de l'Europe, en particulier à partir de la France.
Oui.
J'ai fait, il y a combien, 15 ans ou 20 ans, j'ai fait une étude, j'ai fait une petite recherche, je me suis dit, mais enfin, pourquoi on importe encore des génisses pleines ? Et j'ai pris toutes les importations de génisses pleines depuis 1964 jusqu'à il y a 10 ans, je crois. Et avec un collègue avec des collègues de zootechnie, j'ai fait le calcul en apportant une génisse pleine qui a âgé de 3 ans,
oui,
en supposant que sa durée de vie jusqu'à 7 ans, 8 ans, oui, et en supposant qu'elle soit soignée à peu près correctement. Combien de petits de veau et de veine allait les faire pendant cette période, etc., etc., tu vois.
Oui.
Et je suis arrivé à un chiffre fantastique. Et j'ai comparé le chiffre que j'ai obtenu de vaches qu'on devrait avoir, donc de vaches modernes, par rapport aux vaches qui étaient déclarées au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture déclarait que le troupeau de vaches laitières en Algérie était d'environ 200 000 à l'époque, alors que moi, dans mes calculs, on devait en avoir 10 fois plus. Où sont passées les vaches qui sont nées ?
Grande question.
Grande question. Et en fait, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que, en fait, comme les vaches, les génisses qu'on importait, subissaient un très faible taux de droits de douane, 5% de droits de douane. En fait, les petits malins importaient des génisses pleines, ils les faisaient donc veler la première année, ils récupéraient le veau qu'ils allaient engraisser, et ils envoyaient la vache à l'abattoir. C'était en fait de l'importation de viande fraîche à bateau, parce que la vache est importée avec 5% de droits de douane, alors que la viande fraîche qu'on importait subissait 30 ou 35% de droits de douane. Bon, ça, c'est une de mes hypothèses. Mais tu comprends très bien que les petits malins du ministère de l'Agriculture et leurs amis privés qui apportaient des génisses n'étaient pas très contents qu'on aboutisse à des résultats pareils. Donc ils nous sollicitent vraiment. D'abord, c'est très simple, ils ne nous donnent pas les informations sur leur activité et ils n'aiment pas qu'on publie des choses de ce type. Enfin, ça, c'est mon hypothèse.
Pour finir, Slimane Badrani, avec une question. Les années 90, pour vous la personne, et vous, le chercheur, bien sûr, le professeur, le chercheur, pour vos étudiants, c'était quoi les années 90? Ça, c'était lourd, c'était...
Enfin, c'était quand même terrible. C'était quand même terrible. Et moi, je me demande comment j'ai pu en réchapper. Parce qu'on a reçu des menaces ici en tant que prof. Je me souviens très bien des lettres que m'a envoyé la cellule locale des terroristes en me disant « Vous quittez l'enseignement, sinon vous en portez... » Sinon, vous allez en subir les conséquences.
Vous l'avez reçu directement.
Ah oui, oui, absolument. Et malgré tout, je n'ai pas quitté. Et il ne m'est rien arrivé, alors qu'on a eu quand même beaucoup de collègues qui ont été exécutés, hein, qui ont été tués. Une collègue qui a été tuée à l'entrée, là, à son bureau. Un autre collègue d'économie qui a été tué dans sa maison, là, dans une des fermes de l'INA. Un autre collègue qui a été tué dans son bureau. Et moi, je crois que je fais l'hypothèse que j'ai été protégé probablement par mes voisins, parce que j'habite pas loin d'ici, moi. Parmi les voisins, il y avait des islamistes. Et il se trouve qu'au niveau de mon quartier, j'étais bien avec tout le monde. Je veux dire, je disais bonjour et bonsoir à tout le monde, etc. J'étais le type cool, quoi, pas... Et je pense que les gens de mon quartier m'ont protégé. Les quelques islamistes de mon quartier... ont probablement, ils m'ont pas protégé, ils ont évité de...
Oui, oui, oui.
De me mettre dans le collimateur.
Oui.
Peut-être parce qu'ils pensaient que je n'étais pas un type qui était dangereux pour leurs intérêts, peut-être, hein, je sais pas. Enfin, c'est une hypothèse. Hein.
Et ça a eu des conséquences en termes de travail
sur... En termes de travail, c'est sûr. Bah, d'abord, on ne pouvait plus sortir faire des enquêtes sur le terrain. Or, des agroéconomistes et des ruralistes qui ne peuvent pas sortir sur le terrain, c'est quand même pas ce qu'il faut, quoi. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, on a beaucoup perdu sur le plan de la qualité de la recherche et de l'intérêt de la recherche.
Ça s'est senti matériellement et ça a baissé la production, les publications et tout ça, le nombre, la qualité même.
Pour les quelques personnes qui... Je crois que la quantité et la qualité de la production ne dépendent pas seulement de ça. Hein. Ils dépendent de la politique d'ensemble qui est menée par le ministère en matière de recherche. Ce qui est étonnant, par exemple, c'est que le ministère de l'Agriculture ne sollicite jamais l'ENSA, mis à part dans de très rares occasions, ou ne fournit pas de cahier de charge à l'ENSA pour dire « Bon, écoutez, le ministère de l'Agriculture a besoin de telles recherches, faites-moi des recherches et je vais les financer ». Ça ne s'est jamais produit comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que une administration agricole qui, avant tout, ne cherche, pense détenir tout le savoir nécessaire pour faire le travail qu'elle doit faire. Pas besoin de recherche. Même avec des ministres qui étaient relativement bien disposés à l'égard de l'ENSA et de l'université, c'était pas du tout... Pas... Combien de fois j'ai dit, moi, et mon ami Saoud aussi, j'ai dit à ce ministre-là, mais enfin, les questions de recherche, c'est pas... C'est, il faut, si tu veux résoudre une question qui se pose à toi, tu viens pas me voir, moi, chercheur, aujourd'hui, pour me dire, réponds-moi à cette question et je te donne 2 jours pour y répondre. La recherche, c'est pas ça.
Heureusement.
Il n'a jamais consacré un dinar d'investissement pour des projets de recherche agricole.
C'est l'un des problèmes, j'imagine.
Et je pense que c'est un des problèmes qui se pose un peu partout, d'ailleurs.
Oui, c'est assez commun, malheureusement. Enfin, du moins dans nos pays.
Bon, ceci dit, la recherche est quand même financée. A été relativement financé en matière de. Dans tous les domaines. Hein. On a quand même le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc on a eu des programmes qui ont. Par exemple, le CREAD, j'ai dirigé pendant longtemps le département d'économie et de sociologie rurale au niveau du CREAD. On a eu des programmes de recherche qui ont été financés. Hein.
D'accord. Donc c'est juste une séparation entre la recherche du ministère,
et le ministère de l'Agriculture
et les autres ministères qui pouvaient, notamment pour vous, le ministère de l'Agriculture. C'est ça le problème.
Tout à fait.
Merci infiniment, vraiment.